إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui la lecture de l'épître intitulée الفرق بين النصيحة والتعيير, la différence entre le conseil et le dénigrement, écrite par l'éminent cheikh, l'imam Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier, dans la fin de l'introduction de l'auteur, que les gens de science rahimahumullah ta'ala étaient tous unanimes concernant la légitimité de réfuter l'erreur de celui qui se trompe. Toutefois, ils ont fait la différence en ce qui concerne les réfutations entre les gens de la sunna, entre celui qui réfute dans le but de démontrer la vérité et que les gens ne se laissent pas leurrer par l'erreur de celui qui s'est trompé, et ils ont dit que celui-ci est récompensé pour cette bonne intention, et celui qui réfute dans le but de rabaisser le savant ou de mettre en avant son ignorance sur certains sujets ou ses défauts et ses erreurs et ainsi de suite. Et ils ont dit que celui-ci, dans ce deuxième cas, il est dans le péché pour cette mauvaise intention. Et il a mentionné ce hadith immense dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Et il a dit « Oh vous qui avez cru avec vos langues et qui n'ont pas cru avec leur cœur, ne causez pas du tort aux musulmans, ne poursuivez pas leurs défauts, car certes celui qui poursuit les défauts des musulmans, Allah poursuivra ses défauts, et celui dont Allah poursuit les défauts, il le dévoilera même au fin fond de sa demeure. » Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, par la mention de ce hadith, il a voulu attirer notre attention sur un point important. Le fait qu'il est légitime de réfuter l'erreur, ceci ne veut pas dire que tu dois poursuivre les erreurs des gens de science, des étudiants en science et des prédicateurs. On parle bien sûr de ceux qui font partie des gens de la sunna. Car celui qui fait cela, avec pour intention de les rabaisser, avec pour intention de les dénigrer, avec pour intention de les prendre en raillerie, alors celui-ci encourt cette grave menace qui est mentionnée dans ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala poursuivra ses défauts et les dévoilera, même si ces défauts, ils n'apparaissaient à la base qu'au fond de sa demeure. Donc na'am, il est légiféré, il est légitime de réfuter les erreurs de toute personne, quelle qu'elle soit, aussi éminente soit-elle. Mais attention, il faut le faire avec une bonne intention. L'objectif ne doit être que de secourir la vérité, de mettre en avant la vérité, et d'avertir les musulmans contre cette erreur, afin qu'ils ne suivent pas cette personne dans celle-ci. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé cette introduction en attirant notre attention sur un autre point important, qui est que ceci concerne les réfutations entre les gens de la sunna. Il a dit cette parole immense quant aux gens de l'innovation et de l'égarement, ainsi que ceux qui s'assimilent aux savants alors qu'ils n'en font pas partie. Il est permis de démontrer leur ignorance et d'exposer leurs défauts afin de mettre en garde contre le fait de les prendre pour exemple. C'est-à-dire que, en mentionnant cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, réfute toute personne qui pourrait se servir de ces paroles qu'il a mentionnées pour défendre les gens de l'innovation et de l'égarement, et qui viendrait dire « Ne poursuivez pas les défauts des musulmans, ne cherchez pas les erreurs de tel ou tel parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. » Non, les gens de l'innovation et de l'égarement, c'est un devoir de démontrer leur ignorance, d'exposer leurs défauts, d'exposer leurs erreurs. Car si on ne le fait pas, alors comment les musulmans pourraient-ils prendre garde à eux et s'éloigner de leur suivi? Il est donc indispensable de mettre en garde contre le fait de les prendre pour exemple, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il a dit « Faslun fi anwa'in nasiha ». Il a mentionné, dans le passage suivant, les différentes sortes de nasiha. Toujours, afin de nous aider à comprendre la différence entre la nasiha le conseil qui est louable et le dénigrement qui est blâmable et interdit. Il dit وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِرَدِّهِ عَلَى الْعُلَمَاءِ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَامَلَ بِالْإِكْرَامِ وَالْإِحْتِرَامِ وَالْتَعْظِيمِ. Il dit celui dont on sait qu'il a voulu par sa réfutation des savants. Il parle bien ici de la réfutation des savants. Celui dont on sait qu'il a voulu par sa réfutation des savants. La nasiha envers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est obligatoire de l'honorer, de le respecter et de le révérer. Allahu Akbar. Vous avez vu la différence entre la compréhension des savants et la compréhension de nombre de personnes parmi les faibles d'esprit et les ignorants aujourd'hui. S'ils voient quelqu'un réfuter l'erreur d'un savant en raison de leur vision restreinte comme on l'a mentionné dans un cours précédent et du fait qu'ils réfléchissent selon leurs sentiments et leurs émotions et non pas une réflexion religieuse basée sur la science et la clairvoyance, alors dès qu'ils entendent quelqu'un dire « tel savant s'est trompé » ou réfuter l'erreur d'un savant, alors ils disent « celui-ci dénigre les savants ». Éloignez-vous de celui-ci, il dénigre les savants. Prenez garde à lui. N'écoutez pas ce prêcheur, n'écoutez pas cet étudiant, n'écoutez pas ce cheikh, il dénigre les savants. Alors qu'il a simplement réfuté une erreur. Il lui est apparu par exemple qu'une personne parmi les gens de science a fait certaines erreurs méthodologiques, se joint parfois aux gens de l'innovation. Alors il a dénoncé cette erreur, il a mis en garde contre cette erreur. Et cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dénigre le savant. Non, il ne le dénigre pas. Il met en garde contre son erreur, afin que tu ne le prennes pas pour modèle dans cette erreur. Ici, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il nous dit que celui dont on sait qu'il a voulu par cela la loyauté envers Allah et son messager, il est obligatoire de l'honorer, le respecter, le révérer. C'est-à-dire que tu dois respecter celui qui réfute à partir du moment où il a fait cela pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a certains parmi les savants, à notre époque, qui ont passé leur vie dans la réfutation du faux, la réfutation des contradicteurs, la réfutation des innovateurs et la mise en garde contre leurs innovations et leurs fondements erronés. À l'exemple de l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Ce dernier, en raison de son combat pour la défense de la vérité qu'il a mené durant de longues années, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il est obligatoire pour cette raison, comme l'a mentionné Ibn Rajab, de l'honorer, de le respecter, de le révérer. Et il n'est pas permis de le dénigrer en raison de ses nombreuses réfutations, comme le font certains parmi les ignorants qui disent « Il n'a épargné personne. Il a dénigré tout le monde parmi les gens de science. » Wal'iyadu billah. Sur quelle base prononce-t-il cette parole? Est-ce sur une base religieuse ou sur la base du suivi des passions et des émotions? La réponse, bien sûr, est sur la base du suivi des passions. Comment peut-on reprocher à un savant d'avoir défendu la vérité pendant de nombreuses années et d'avoir réfuté aux gens du faux, de tous bords et de toute secte, alors que ceci fait partie des plus grandes formes de djihad, des plus grandes formes de lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme l'a mentionné Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, celui qui réfute les gens de l'innovation est un mujahid. C'est-à-dire qu'il lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la lutte sur le sentier d'Allah, ce n'est pas seulement la lutte avec les armes. Mais cela englobe également la lutte avec la science, avec les preuves et les arguments. Ceci est une des plus grandes formes de lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de comprendre qu'il n'est pas permis de prendre ces réfutations pour cause de dénigrement ou de rabaissement d'un savant. Au contraire, Ibn Rajab nous dit, il est obligatoire de l'honorer, de le respecter, de le révérer. Ensuite, il dit, كَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَأَمْثَالِهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Il dit, il est obligatoire de l'honorer, le respecter, le révérer, comme l'ensemble des imams des musulmans, dont la mention a précédé, ainsi que leurs semblables parmi ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et ce car, en faisant cela, en réfutant le faux, en réfutant les erreurs, en réfutant les gens de l'innovation, des passions et de l'égarement, Celui qui fait cela, il a suivi les pas des imams de l'islam et de ceux qui l'ont précédé parmi les grands savants. Ensuite, il dit « وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِرَدِّهِ عَلَيْهِمْ التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. Ici, il fait la distinction entre celui qui conseille et celui qui dénigre. Il dit, et celui dont on sait qu'il a voulu par sa réfutation contre eux, sa réfutation contre les savants, le rabaissement, le blâme et la mise en évidence des défauts, alors celui-ci mérite qu'on s'oppose à lui en le sanctionnant, lui et ses semblables, afin qu'il cesse ses actes vils et interdits. Comme on l'a vu dans le cours d'hier, celui dont l'intention est, par sa réfutation, de secourir la religion et de faire triompher la vérité, et de mettre en garde les musulmans afin qu'ils ne tombent pas dans l'erreur de ce savant ou de cette personne. Alors celui-ci est récompensé pour son intention, car ceci fait partie de la loyauté envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Mais celui dont l'intention, par sa réfutation, est de mettre en avant les défauts des savants, de mettre en avant leurs erreurs, de les prendre en raillerie, de rabaisser les étudiants en sciences, les prédicateurs, de poursuivre leurs défauts, alors celui-ci, il est dans le péché pour cette mauvaise intention. C'est pour cela qu'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il nous dit, il mérite qu'on s'oppose à lui en le sanctionnant, afin que lui et ses semblables cessent ses actes vils et interdits. Quels sont ses actes vils et interdits? Fait de rabaisser les gens de science, de poursuivre leurs défauts, de chercher à mettre en évidence leurs erreurs, leurs défauts, leur ignorance sur certaines questions et ainsi de suite. Il se peut même que certains d'entre eux aillent plus loin dans la bassesse et en plus de cela, qu'ils aillent mentir sur les gens de science, mentir sur les étudiants en science, mentir sur les prédicateurs. C'est-à-dire qu'en plus de poursuivre leurs défauts, ils vont leur inventer des défauts et mentir à leur sujet, les calomnier. Ou alors les injurier, prononcer des paroles qui ne sont pas convenables. Ou pire encore, wal'iyadu billah, les diffamer et les accuser de choses gravissimes dont ils sont innocents. Donc il n'y a pas de doute que celui dont telle est la situation, il est obligatoire de s'opposer à lui en le sanctionnant, afin qu'il cesse sa fitna, et qu'il cesse de semer les troubles et la discorde entre les musulmans. Et à partir de là, on comprend que celui qui souhaite réfuter et mettre en garde contre une erreur, il lui convient avant tout de prendre soin de purifier son intention et de veiller à ce que son intention ne soit que de faire triompher la vérité et faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en garde contre le faux et non pas rabaisser, dénigrer, injurier ou prendre en raillerie les musulmans. Et comme on l'a dit, ceci concerne les réfutations entre les gens de la sunnah. Quant aux gens de l'innovation et de l'égarement, comme l'a mentionné l'auteur, il est permis de démontrer leur ignorance et d'exposer leurs défauts afin de mettre en garde contre le fait de les prendre pour modèle. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous indique comment faire la différence entre ces deux cas. Comment fait-on la différence entre celui dont la réfutation a pour but de faire triompher la vérité et de porter le bon conseil, de porter la nasiha, et celui dont l'intention est le rabaissement et le dénigrement. Il dit, rahimahullah, وَيُعْرَفُ هَذَا الْقَصْدَ تَارَةً بِإِقْرَارِ الرَّادِّ وَاعْتِرَافِهِ. Et cette intention est connue, parfois, par les aveux et la reconnaissance de celui qui réfute. C'est-à-dire que lui-même avoue avoir voulu, par cette réfutation, rabaisser tel ou tel savant ou telle personne. وَتَارَةً بِقَرَائِنْ تُحِيطُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ. Il dit, et parfois par des indices qui accompagnent ses actes et ses paroles. C'est-à-dire par sa manière de parler, par sa manière d'agir, par sa manière de s'y prendre dans sa réfutation, on va comprendre qu'il recherche par celle-ci à rabaisser celui à qui cette réfutation est adressée. Il dit ensuite, rahimahullah, فَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ وَتَوْقِيرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتِرَامُهُمْ لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء.
Il dit celui dont on connaît la science et la religiosité et le respect qu'il a pour les imams des musulmans, ainsi que la révérence qu'il a à leur égard.
Alors, il ne mentionne sa réfutation et ne met en évidence l'erreur que de la manière dont l'ont vu autre que lui parmi les imams des savants.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le savant dont on connaît la science, la religiosité, et dont on connaît de lui le respect et la révérence qu'il a à l'égard de la sunna et des savants de la sunna, s'il réfute un autre savant, la base est que l'on doit considérer cette réfutation comme faisant partie de la nasiha. Il n'est pas permis de sortir de cette base sans preuve ni indice démontrant autre que cela. Et il n'est pas permis de l'accuser d'avoir voulu rabaisser autrui sans preuve ni argument.
Ensuite, il dit, rahimahullah, وَأَمَّا فِي التَّصَانِفِ وَفِي الْبَحْثِ وَجَبَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الْأَوَّلِ.
Il dit, en ce qui concerne les écrits et les recherches, il est obligatoire d'interpréter sa parole selon le premier cas. C'est-à-dire, il est obligatoire d'interpréter sa parole comme étant une parole par laquelle il a voulu secourir la religion et porter le bon conseil aux musulmans. En effet, souvent dans les écrits, ou lors des recherches scientifiques, les gens de science sont amenés à réfuter les avis d'autres savants. Ou dans l'enseignement, lorsqu'on enseigne les règles de la purification, les règles de la prière, les règles du jeûne, de la zakat, ainsi de suite. On mentionne parfois les différents avis. On dit tel avis a été soutenu par tel et tel savant. Le premier avis est basé sur telle et telle preuve, mais le deuxième avis est plus juste et plus fort, car ils ont réfuté le premier avis en disant ceci et cela, et ainsi de suite. Donc dans cette situation, il est obligatoire d'interpréter ces réfutations et ces réponses comme ayant pour but le secours de la vérité et le bon conseil pour les musulmans. Ensuite, il dit
« وَمَنْ حَمَلَ كَلَامَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَالْحَالُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَهُوَ مِمَّنْ يَظُنُّ بِالْبَرِيِّ الظَّنَّ السَّوْءَ وَذَٰلِكَ مِنَ الظَّنِّ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Et celui qui interprète sa parole d'une manière autre que celle-ci, alors que la situation est telle que l'on vient de le mentionner, c'est-à-dire que celui qui réfute est connu pour sa science, est connu pour sa religiosité, est connu pour sa révérence et son respect à l'égard de la sunna et des savants de la sunna. Celui qui interprète sa parole et sa réfutation d'une manière autre que comme étant un bon conseil pour les musulmans, alors il fait partie de celui qui a une mauvaise pensée sur un innocent. Et ceci fait partie des pensées, des soupçons qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Il s'est basé simplement sur un soupçon, il n'a aucune preuve, aucun indice, lui démontrant que ce savant ou cette personne a voulu dénigrer ou rabaisser celle qu'elle réfute. Mais il l'accuse de cela sans preuve. Alors, il est tombé dans le mauvais soupçon qui est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Prenez garde au soupçon, car le soupçon est le plus mensonger des discours. » Tu ne peux pas te baser simplement sur des soupçons. Lorsque tu accuses quelqu'un d'une chose, il faut des preuves. Pas simplement des soupçons ou des intuitions, mais il faut des preuves, des indices de cela. Ensuite, il dit, rahimahullah,
وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
Et il est concerné par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit selon le sens au verset 112 de Sourate An-Nisa, et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, seront alors coupables d'une injustice et d'un péché évident. Celui qui accuse un savant d'avoir voulu par sa réfutation se mettre en avant ou rabaisser les gens qu'il a réfutés, alors cette accusation elle relève du mauvais soupçon qui est interdit. Car la base est que ce savant, comme on l'a dit, il veut par ses réfutations faire triompher la vérité. Il ne réfute pas pour élever sa personne ou pour chercher la notoriété ou par jalousie ou je ne sais quoi. Mais il ne réfute que pour clarifier la vérité. Donc celui qui l'accuse sans preuve, simplement sur une base de soupçon, il est dans le péché pour cela. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَإِنَّ الظَّنَّ السَّوْ مِمَّنْ لَا تَظْهَرْ مِنْهُ أَمَارَاتُ السَّوْ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Il dit en effet « Le mauvais soupçon à l'encontre de celui dont aucun signe de mal n'est apparu. Cela fait partie de ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Il n'est pas permis d'avoir un mauvais soupçon sur un musulman qui ne laisse pas apparaître de signe du mal. » Donc celui qui réfute une personne parmi les gens de science, en démontrant son erreur avec science, clairvoyance et équité, sans transgression, et qui est connu pour sa science, sa religiosité et son respect à l'égard de la sunna et des gens de la sunna, il n'est pas permis d'avoir un mauvais soupçon à son égard. Et celui qui a ce mauvais soupçon, c'est lui qui est dans le péché. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَقَدْ جَمَعَ هَذَا الظَّنِ بَيْنَ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَةِ وَالْإِثْمِ وَرَمْيِ الْبَرِئِ بِهَا » Il dit celui-ci, l'auteur de ce mauvais soupçon, il a réuni entre l'acquisition d'une faute et d'un péché, qui est ce mauvais soupçon qui est interdit, et l'accusation d'un innocent. C'est-à-dire que c'est lui qui est dans le péché par son mauvais soupçon, et il accuse un innocent d'avoir péché. On voit donc la gravité d'un tel comportement. Et ceci est général, hein. Cela ne concerne pas seulement le domaine des réfutations. De manière générale, il n'est pas permis d'avoir des mauvais soupçons sur les musulmans. Si tu n'as pas d'indice ou de signe te laissant penser le mal, il ne t'est pas permis d'avoir de mauvais soupçons envers tes frères et sœurs. Et il faut prendre garde à ne pas accuser un musulman d'une chose dont il est innocent. Car en faisant cela, on réunit entre plusieurs péchés, comme on vient de le voir à travers ce verset. Et concernant les réfutations, on voit que nombreuses personnes, lorsqu'elles sont réfutées, qu'est-ce qu'elles font? Au lieu de se pencher de manière objective sur la réfutation qui leur est adressée, et d'essayer de voir ce qui est juste dans celle-ci ou ce qui est faux, ils vont tout de suite s'en prendre à celui qui les a réfutés, et l'accuser de ce dont il est innocent. Ils vont dire « celui-ci, il veut la fitna. Celui-ci, il ne veut que la discorde. Celui-ci, il nous réfute car il est jaloux de nous. Celui-ci, il nous réfute car c'est un envieux. » Et autres accusations. En faisant cela, ils aggravent leur situation. Au lieu de se remettre en question, ils s'enfoncent dans le péché et la transgression, wal'iyadu billah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite « وَيُقَوِّي دُخُولَهُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَعْنِي هَذَا الظَّنِّ أَمَارَاتُ السُّوءِ » Et elle dit « renforce le fait qu'il est concerné par cette menace, c'est-à-dire celui qui a ce mauvais soupçon, si apparaît sur lui des signes du mal. » Quels sont ces signes du mal? Il dit, rahimahullah, mithlu kathratul bari, comme le fait de faire grand nombre d'injustices, wal udwan, et de transgressions, wa qillatul wara, et le manque de scrupules, wa itlaqul lisan, et le fait de laisser aller sa langue, de délier sa langue, wa kathratul ghibati wal buhtan, et le fait de médire et de mentir de façon abondante, والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله. Et la jalousie à l'égard des gens concernant les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordées. والامتنان, le fait de rappeler ses bienfaits. وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. Et la grande convoitise dans la course à la notoriété avant l'heure. Tout ceci sont des signes laissant penser le mal de la personne chez qui on les retrouve. Le fait d'être injuste, de transgresser, de dépasser les limites à l'égard de ses frères et sœurs, de manquer de scrupules lorsqu'on parle, de ne pas prendre garde à l'interdit, de délier sa langue dans la médisance et les mensonges, d'envier les gens et de convoiter cette course à la notoriété avant l'heure, comme on l'observe chez grand nombre de personnes qui se mettent en avant aujourd'hui, qui font la course à la notoriété. La course aux abonnés, la course aux followers, la course au nombre de vues, la course aux likes ou je ne sais quoi. Ces gens, lorsqu'ils sont réfutés, ils ont peur de voir ces choses-là diminuer. C'est pour cela que lorsqu'ils sont réfutés, ils vont tenter d'accuser celui qui les réfute de toutes sortes d'accusations infondées. Donc celui dont telles sont les caractéristiques Il n'y a pas de doute qu'il est concerné par le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Et méditer sur sa parole, la convoitise dans la course à la notoriété avant l'heure. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne de cette notoriété. Il la recherche alors qu'il n'en est pas digne. Et certes, comme l'ont mentionné les gens de science, celui qui précipite une chose avant son moment, alors il sera sanctionné par le fait d'en être privé. Celui qui veut se mettre en avant alors que ce n'est pas le moment, il sera privé de cette notoriété qu'il recherche. Et certes, combien de personnes ont été un temps en avant, suivies et écoutées, puis aujourd'hui sont aux oubliettes, en raison de leur transgression, de leur injustice et de leur opposition à la sunna et aux savants de la sunna. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit « فَمَنْ عُرِفَتْ مِنْهُ هَذِي الصِّفَاتِ أَلَّتِ لَا يَرْضَى بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ فَإِنَّمَا يُحْمَلُ تَعَرُّضُهُ لِلْعُلَمَاءِ وَرَدُّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي » Et celui dont on connaît de lui ces caractéristiques que l'on vient de mentionner, qui ne sont pas agréées par les gens de science et de la foi, alors sa réfutation contre les savants est interprétée comme mentionné dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'on dira qu'il a voulu par cette réfutation les rabaisser, les dénigrer et mettre en avant leurs défauts. Il dit donc « فَيَسْتَحِقُّ حِينَ إِذٍ مُقَابَلَتَهُ بِالْهَوَانِ » Il mérite alors à ce moment-là qu'on s'oppose à lui en l'abaissant, en l'avilissant. Il recherchait la notoriété, il cherchait à rabaisser les savants, à mettre en avant leurs défauts, à critiquer les gens de science, à critiquer les étudiants en science, à les mépriser, les mésestimer, les dénigrer. Alors, il mérite qu'on s'oppose à lui en l'abaissant, en l'avilissant. Méditez bien sur cette parole. Et là, vous comprendrez beaucoup de choses par lesquelles parfois, certaines personnes sont étonnées. En effet, on entend parfois des gens de science faire les éloges d'un cheikh ou d'une personne affiliée à la science. Ils lui font de grandes éloges lorsqu'apparaît de lui qu'il défend la sunna, qu'il défend les gens de la sunna, qu'il cherche à faire triompher la vérité. Puis, s'il arrive que ce dernier dévie sur certains sujets et se mette à dénigrer les gens de la sunna, à rabaisser les gens de la sunna, à poursuivre leurs erreurs, à mettre en garde contre eux de manière infondée, sans aucune preuve ni argument. Alors on verra ce même savant qui, quelques années en avant, faisait sur lui de grandes éloges, l'abaisser et l'avilir. Et les gens pensent que ceci est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Il le rétribue en fonction de ses actions. Lorsqu'il défendait la sunna, il disait du bien de lui. Lorsqu'il est apparu de lui qu'il combat les gens de la sunna et dénigre les gens de la sunna, alors, il le rétribue comme il se doit, en l'abaissant et l'avilissant. Comme l'a mentionné ici l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il mérite à ce moment qu'on s'oppose à lui en l'abaissant. Il est rétribué par le contraire de ce qu'il recherchait. Il a voulu se mettre en avant, prendre le dessus sur les gens de la sunna. Il s'est retrouvé rabaissé et avili, wal'iyadu billah. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَمَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ أَمَارَاتٌ بِالْكُلِّيَّةِ تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَحْسَنِ مَحْمَلَاتِهِ » Ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne un troisième cas. On a vu le premier cas de celui qui réfute et dont on connaît de lui le bien, la science, le respect des savants, le respect de la sunna et ainsi de suite. Celui-là, il est obligatoire de donner une bonne interprétation à ses réfutations et de penser de lui qu'il veut par celle-ci secourir la vérité. Le deuxième cas est celui dont sont apparus des indices démontrant qu'il recherche la notoriété, qu'il transgresse, qu'il ment, qu'il médit, et ainsi de suite. Celui-là, sa réfutation, elle est interprétée comme étant une forme de dénigrement. Le troisième cas, il nous dit, rahimahullah ta'ala, c'est celui dont aucun signe, aucun indice n'apparaît, démontrant ceci ou cela. Il n'y a aucun indice démontrant qu'il veut le bien et aucun indice démontrant qu'il veut le mal. Alors dans cette situation, il nous dit il est obligatoire d'interpréter sa parole de la meilleure manière. وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَسْوَأِ حَالَاتِهِ Et il n'est pas permis d'interpréter sa parole d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on pensera de lui qu'il a voulu par cette réfutation le triomphe de la vérité et le bon conseil pour les musulmans. On ne doit pas l'accuser d'autre chose étant donné qu'il n'y a aucun indice nous laissant penser autre que cela. Puis il dit وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
Et Omar, radiallahu ta'ala anhu, a dit, ne pense pas de mal d'une parole qui est sortie de ton frère musulman, alors que tu lui trouves une bonne interprétation. À partir du moment où tu n'as aucun indice, te laissant penser qu'il a voulu par cette parole le mal, le dénigrement, le rabaissement ou une chose mauvaise, il est obligatoire pour toi de donner une bonne interprétation à sa parole. À partir du moment où il t'est possible de lui donner une bonne interprétation, tu ne dois pas penser du mal de sa parole. Telle est la règle concernant cette troisième situation que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a démontrée. Donc comme vous le voyez, on parle surtout du domaine des réfutations qu'il peut y avoir entre les gens de science. Mais en réalité, ces règles, elles s'appliquent également dans notre quotidien. Combien de personnes parfois rentrent en conflit, en discorde, en raison d'une mauvaise pensée basée sur des soupçons infondés? Combien de personnes se font conseiller, par exemple sur un péché qu'ils ont fait, et ils vont accuser ce conseiller d'être jaloux d'eux, de vouloir le mal, de vouloir les rabaisser, alors que la base est qu'il est obligatoire de donner une bonne interprétation à son conseil, et de se dire qu'il n'a voulu que le bien. Tant qu'il n'y a aucun indice te laissant penser qu'il a voulu te dénigrer ou te rabaisser, tu dois avoir une bonne pensée de tes frères et sœurs. Et tel doit être le comportement du musulman. Et tu dois toujours observer les critiques qui te sont adressées de manière objective, même si celles-ci proviennent de gens que tu réprouves ou de gens que tu détestes, car il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la vérité te parvienne par l'intermédiaire de ces personnes, et tu ne dois donc pas rejeter la vérité sous prétexte qu'elle t'est venue par leur intermédiaire. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne dans le passage suivant la manière d'adresser le conseil, et c'est ce qu'on verra bi'innillahi ta'ala dans le cours de demain, insha'allahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayraa.